Chapitre 44. On sait de quelle manière attaquer les Parthes. Seulement, cette fois, en même temps qu'ils attaquaient, ils furent attaqués. Octavius, dont il ne paraissait pas vouloir s'occuper d'abord, en voyant son général enveloppé, fit un appel à ses hommes, afin que ceux qui seraient de bonne volonté, allassent, avec lui, lui porter secours. 500 hommes d'abord, puis les 4500 autres descendirent de leur montagne comme une avalanche de fer, rompirent les rangs des Parthes et firent leur jonction avec Crassus. Alors, réunis à leurs compagnons, tous ensemble, ils le firent placer au centre, l'enveloppèrent de leur corps, le couvrirent de leurs boucliers et crièrent fièrement à l'ennemi « Tirez tant que vous voudrez maintenant. Pas un trait n'atteindra notre général que nous ne soyons tous morts autour de lui et avant lui. » Et tous, pressés ainsi les uns contre les autres, ils commencèrent, masse mobile et presque impénétrable, à cause des boucliers, à battre en retraite vers les Cynaques. Le surénat remarqua avec inquiétude qu'il ne restait presque plus autour de Crassus que des hommes à boucliers, la plus grande partie des soldats armés à la légère et qui ne portaient pas cette arme défensive étant morts. Les boucliers, sans neutraliser les coups des flèches terribles, en amortissaient cependant l'effet. Groupés comme ils étaient, les Romains présentaient l'image d'une immense tortue à la carapace de fer, se mouvant lentement, mais enfin se mouvant, et cela tout en gagnant le pays montagneux. Il comprit qu'une fois qu'il allait être engagé dans cette chaîne de collines, la cavalerie, qui faisait sa force principale, lui devenait inutile. Il vit que l'ardeur de ses Parthes s'émoussait, et il ne fit aucun doute que, si la nuit survenait et que les Romains parvinssent à quitter la plaine, ils étaient sauvés. Alors le barbare en revint à la ruse, qui lui avait toujours aussi bien réussi que la force. On laissa évader à dessein quelques prisonniers, tout en faisant semblant de les poursuivre et de tirer dessus. Les Parthes, par ordre de leur chef, avaient dit, devant ces prisonniers, que les Romains se trompaient quand ils croyaient que le roi Orodès leur voulait faire une guerre d'extermination, que rien au contraire ne lui serait plus honorable que l'amitié et l'alliance des Romains, s'ils pouvaient croire à cette amitié et à cette alliance, et que, si Crassus et les Romains se rendaient, on les traiterait certes avec humanité. Les prisonniers se sauvèrent donc, et, ayant échappé à ceux qui les poursuivaient et aux traits lancés sur eux, ils rejoignirent leurs compagnons, auxquels ils firent part de ce qu'ils avaient entendu. Ils furent conduits jusqu'à Crassus, à qui ils répétèrent la fable inventée par le surénat. Celui-ci, les ayant suivis des yeux, les avait vus regagner l'armée romaine, et, remarquant le mouvement qui s'y faisait depuis leur arrivée, il suspendit l'attaque. Puis, débandant son arc, d'un pas tranquille et accompagné de ses principaux officiers, il s'avança vers Crassus, lui tendant la main et l'invitant à une entrevue. Les soldats, voyant ces démonstrations pacifiques, firent silence et ils entendirent la voix du général ennemi qui disait « Romain, c'est malgré lui et parce que vous êtes venu le chercher au cœur de ses états que le roi vous a fait éprouver sa vigueur et sa puissance. Et maintenant, en vous renvoyant tout sain et sauf, il veut vous prouver sa clémence et sa bonté. » Comme ces paroles étaient en harmonie avec ce que venaient de rapporter les prisonniers, les Romains les accueillirent avec une joie extrême. Mais Crassus secouait la tête et ne voulait pas s'y fier. Toute négociation, jusqu'alors, avait voilé quelques pièges et quelques mensonges, et il ne voyait chez les Parthes aucun motif à un changement de conduite si incroyable et si inattendu. Il en délibérait donc avec ses officiers, opinant pour repousser toute ouverture, si séduisante et si doucereuse qu'elle fût, et surtout pour continuer sans perdre un instant la retraite vers les montagnes, quand les cris des soldats revinrent troubler sa délibération. Eux aussi avaient délibéré et avaient décidé que leur chef irait au surénat comme le surénat venait à lui et accepterait les propositions qui lui étaient faites. Crassus voulut s'opposer à leur désir, mais ce n'était déjà plus un désir, c'était une volonté. Les cris et les injures commencèrent à se faire jour et s'élancèrent de ces masses aigries. Crassus était un traître, Crassus était un lâche, il les livrait à des ennemis auxquels lui-même n'osait pas aller parler quand ses ennemis venaient à lui sans armes. Le général romain insista, leur demandant d'attendre un jour seulement, leur promettant que, le lendemain, ils seraient en sûreté dans la montagne. Mais ces hommes, désespérés, étaient à bout de force et de patience. Ils ne voulurent entendre à rien. Ils frappaient leurs armes les unes contre les autres pour couvrir sa voix, passant de l'injure à la menace, et criant, eux qui venaient de dire qu'on arriverait au corps de leur général que lorsqu'on les aurait tous tués, et criant que, si Crassus ne descendait pas vers le Suréna, eux allaient le prendre et le livrer. Ce rayon d'espérance les avait rendus aveugles et fous. Enfin, Crassus dit qu'il était prêt à faire ce qu'exigeait l'armée. Mais avant de marcher vers les Parthes, s'adressant à haute voix à ses soldats, « Octavius, dit-il, Pétronius et vous tous, officiers ici présents, vous êtes témoins de la violence qui m'est faite. Mais si vous échappez à ce danger, oubliez la façon dont me traitent mes propres soldats et dites à tout le monde que c'est par la perfidie de ses ennemis et non par la trahison de ses compatriotes que Crassus a péri. » Et sur ces mots, Crassus commença de descendre seul la colline. Mais alors, Octavius et Pétronius eurent honte de laisser ainsi leur général s'exposer seul et le suivirent. Les lecteurs de Crassus, jugeant que c'était de leur devoir de ne point abandonner leur maître, vinrent aussi se ranger à ses côtés. Mais Crassus les renvoya. « Si c'est pour traiter, dit-il, je suffis au traité. Si c'est pour mourir, je suffis à la mort. » Ils voulurent envoyer comme eux Octavius et Pétronius, mais ceux-ci refusèrent absolument de le quitter, ainsi que 5 ou 6 Romains dévoués qui voulurent partager, quel qu'il fût, le sort de leur général. Tous 3 s'avancèrent donc vers le groupe ennemi qui les attendait. À 5 ou 6 pas derrière eux marchait leur petite escorte. Les premiers qui vinrent à la rencontre de Crassus et qui lui adressèrent la parole furent 2 Grecs métis, comme si, depuis Sinon, dans toute trahison, devait se retrouver un Grec. Ceux-ci, en reconnaissant Crassus, sautèrent à bas de leurs chevaux et, le saluant profondément, lui adressèrent la parole en grec, l'engageant à envoyer quelques hommes pour s'assurer que le Suréna s'avançait sans armes. « Si j'avais fait cas de ma vie, répondit Crassus dans la même langue, je ne serais pas venu me mettre en votre pouvoir. » Cependant, faisant halte un instant, il envoya devant lui 2 frères nommés Roscius pour demander combien on serait à l'entrevue et de quelle chose on traiterait. Le Suréna commença par retenir les 2 frères, puis franchissant rapidement avec ses officiers la distance qui le séparait encore de Crassus. « Et quoi, dit-il, nous sommes à cheval et le général des Romains est à pied. Un cheval, vite, un cheval !» « Inutile, répondit Crassus, puisqu'il y a traité entre nous, déballons ici les clauses de ce traité. » Mais le Suréna, « Il y a traité, dit-il, à partir de ce moment, sans aucun doute. Cependant, rien n'est encore signé, et, ajouta-t-il avec un mauvais sourire, vous autres Romains, vous oubliez vite tout traité qui ne porte pas votre cachet. » Puis il tendit la main à Crassus. Celui-ci donna la main au Suréna, tout en jetant à ceux qui le suivaient l'ordre d'amener son cheval. « Pourquoi demander ton cheval ? » dit le Suréna. « Crois-tu que nous manquions de chevaux ? Tiens, en voici un que le roi te donne. » Et il montrait un cheval magnifique, splendidement caparaçonné, avec un frein d'or. En même temps, et avant que Crassus eût essayé de s'en défendre, les écuyers l'avaient enlevé, l'avaient mis en selle et, marchant à ses côtés, frappait le cheval pour hâter sa marche. Il était évident que la trahison s'accomplissait et que l'on voulait enlever Crassus.